Salut tout le monde, et c'est Evelyne et bienvenue à un nouvel épisode de Souvenirs en héritage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter notre invité, Monsieur Marcel, et son histoire de vie. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on va découvrir beaucoup, ce qui va être mis de l'avant, parce que c'est ce qui ressort quand on rencontre cette personne-là, c'est des valeurs très inspirantes qui sont la rigueur de monsieur, le sens du devoir, le sens du travail bien fait et la détermination. C'est des qualités qui, lorsqu'on rencontre monsieur, nous inspirent automatiquement. Monsieur Marcel, c'est un homme qui vient d'un milieu très modeste, comme il me l'a déjà exprimé, et qui a su se créer un idéal grâce à cette passion-là qui l'animait, puis à ces valeurs-là qui étaient très importantes pour lui. On parle de son enfance, on parle de l'adolescence, de ses études, justement de ses études, et on parle aussi de son expérience en Angleterre quand il est parti dans le cadre de ses études. Donc, on va parler de ça, de sa vie d'adulte, sa vie professionnelle, puis comme je vous dis, à quel point ces valeurs-là ont marqué cet homme-là et ont fait en sorte qu'il a toujours été droit devant, qu'il a toujours été toujours déterminé à avoir le meilleur pour lui, puis et pour ceux et celles qui l'aiment profondément. Donc, un très bel épisode où on rencontre un homme charmant, rempli de belles qualités humaines, puis je suis très contente de vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle écoute, mais avant toute chose, bien évidemment, je veux qu'on salue la gang de Synoptique qui nous permet, en fait, d'enregistrer ce magnifique balado, donc, et d'avoir ce beau décor, donc merci beaucoup. Et bien évidemment, je mets en lumière la compagnie Meilleure, avec laquelle on a toujours la question meilleure dans le cadre de nos balados. Donc, comme je vous disais, je vous souhaite une belle écoute, puis au plaisir. Bye bye!
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui.
Super. Ben écoutez, première des choses, je vous remercie tellement d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très, très, très contente. Pas trop stressée?
Non.
Juste assez. Donc, écoutez, on va commencer. On va commencer tranquillement. J'aimerais ça que vous puissiez nous dire le contexte dans lequel vous êtes né, l'environnement d'où vous venez. On vous écoute.
Ben, moi, je suis né dans. Dans le milieu de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1943, sur le bord d'un lac. J'étais un premier de famille.
Oui.
Puis, donc, ça s'est bien déroulé, mais mon père était entrepreneur, il a même été pilote de navire d'un traversier. Puis après ça, il a travaillé sur la drave un peu pour mon futur beau-père. On ne savait pas ça, mais je l'ai su un peu plus tard.
Oui, les surprises de la vie, comme on dit.
Ouais. Puis après ça, ben, il a été contremaître sur des moulins assis. Mm-hmm. Puis il a été jobber aussi pour les fours à charbon dans lesquels j'ai travaillé. Puis ça a été comme ça. Mais les autres, mes frères et sœurs, sont arrivés selon la volonté de l'Église dans ce temps-là, à toutes les années.
Oui, c'est un autre contexte, disons-le.
Oui, 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 oui. Puis... Donc, c'est ça, là, pas mal la source. On n'était pas des familles riches, c'est sûr et certain. On vivait au jour le jour. Des fins de mois, plus tard, on commençait à être difficile aussi parce que la famille était nombreuse.
Ouais.
On était 10 enfants, nous autres. En tout cas, dans l'histoire, je vais continuer tantôt. Qu'est-ce qui a pu survenir dans les décisions à prendre, puis les difficultés à rencontrer.
Mm-hmm.
Fait que c'était ça, le début, là.
Ben, c'est quand même un gros début. Moi, j'ai vraiment le goût qu'on parle du fait que vous étiez l'aîné d'une famille de 10 enfants. De un, ça va être du monde à la messe, comme on dit.
Ouais.
Mais aussi, ça l'amène des grosses responsabilités à un jeune âge. Mais je me permets aussi d'aller avec le fait que vous avez commencé à travailler très tôt aussi.
Oui, à l'âge de 7 ans.
Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Parce que je trouve ça absolument fascinant.
Ben, j'accompagnais mon père assez souvent au travail. Et puis, mon père, c'était quelqu'un qui considérait le travail comme la plus importante façon d'agir.
Ouais.
Puis, il m'a demandé d'aller placer le bois dans la cour à bois qui sortait du moulin assis. Puis assez souvent, on utilisait les chevaux pour faire ça, mais aussi les camions. Puis, bien sûr, qu'à l'âge de 7 ans, ben, mon père il m'a demandé, ben, il va avancer le camion, va reculer le camion, va-t'en dans le cours avec. J'avais 7 ans. Fait que conduisais le camion debout, en avant du siège. Vous ne pouvez pas faire autrement, j'étais pas assez grand.
On s'adapte avec les moyens du bord, comme on dit. Hein?
Ben, c'est ça. Fait que tout ça pour ramener à une histoire que à 9 ans, je plumais des dormants de chemin de fer vert dans lesquels il fallait enlever les corps sur les deux faces, à dos de hache. Puis on pilait, je les pilais sur ça faisait une pile dans le cour à bois encore. Ça pesait 185 livres chaque, ça. Mais j'avais 9 ans, moi. Fait que les gens, ils passaient, puis ils disaient, « Vas-tu être capable? »
C'est une bonne question. Est-ce que vous étiez capable?
Ben oui, je l'étais. Fait que je lui disais de ne pas s'inquiéter. Puis, c'est chemin faisant comme ça, à l'âge de 12-13 ans, on avait, dans ce temps-là, on décorait le village, on faisait une haie d'honneur. On était allé jusqu'au reposoir pour la fête Dieu, là.
Oui.
Bon. Moi, j'empruntais le camion de la compagnie. Que la compagnie prêtait qu'à moi seul. Il ne prêtait pas à d'autres.
Oui, bien, vous aviez fait vos preuves à un assez jeune âge, quand même. Là.
Bon, disons, j'avais à peu près 11-12 ans à ce temps-là, mais il y avait beaucoup de jeunes qui venaient avec moi pour aller couper des petits arbres. Puis il fallait faire attention, il fallait être prudent. Puis les autres, ils avaient remarqué ça. J'avais pas de misère à avoir le camion.
C'est déjà à un aussi jeune âge, on le voyait à quel point vous étiez une personne digne de confiance. Justement, à 9 ans, à 11 ans, c'est incroyable. Puis, je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce que, tu sais, veux pas au Québec aujourd'hui, tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre. Puis, même avant ça, je pense que ça l'a toujours été correct ou bien accepté que, tu sais, les jeunes commencent à travailler, tu sais, que ça soit, tu sais, au chocolat favori, que ça soit au Canadian Tire, etc. Mais ça reste que c'est pas du tout la même réalité qu'à l'époque dans laquelle vous étiez. Non. Vous m'aviez dit aussi que vous avez été dans le charbon aussi.
Surtout quand tu es piloté par ton père. C'est, c'est demandant.
Ouais,
j'avais aussi, à l'âge de 9 ans, quand je faisais ça, les dormants de chemin de fer, j'avais aussi un petit commerce que je m'étais bâti. J'avais négocié avec l'épicier du coin pour avoir les choses au prix coûtant. Puis moi, ben, je faisais du classage dans le sol, les caisses de bière, les bouteilles, tout ça. Pour avoir cet avantage-là. Puis après ça, moi, je revendais ça sur le moulin assis lors des arrêts repos. Là. Ça me faisait un petit commerce en même temps.
C'est ça. C'est intéressant, c'est que vous avez aussi un petit côté entrepreneur dès plus jeune âge. Là. C'est vraiment intéressant. Mais tu sais, je me pose la question. Mettons, je me mets à votre place comme enfant de 9-11 ans. Tu n'es pas fatigué? Est-ce que des fois, vous trouviez ça difficile? Là, de...
Ouais. Ben, on n'avait presque pas le droit d'arrêter. Parce que je me souviens quand j'étais aux études, puis ça c'était plus tard, mais à cet âge-là aussi, là, ça marchait comme ça. Aussitôt que je sortais d'école, je m'en allais pas à la maison. Je m'en allais au travail.
Ça, vous, la valeur du travail, ça vous a été inculqué très rapidement. Là. Comme on dit, pas le temps de niaiser, vous, on travaillait. Là.
On perd pas de temps, il y a de l'ouvrage à faire.
Okay. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous parler de vos parents, s'il vous plaît?
Mes parents. Ma mère, c'est une femme, était institutrice d'école. Provient d'une famille de 18. Puis j'ai l'impression que ma descendance amérindienne vient de cette famille-là. Mm-hmm. Parce que c'est des cloutiers. Puis on se souvient que c'était des proches des Micmac.
OK.
Fait que moi, j'ai ma carte d'Indien. Hein,
OK.
Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'était pour ma mère. Elle a arrêté d'enseigner quand nous autres, on est arrivés. Mm. Elle a élevé ses enfants. Puis après ça, elle est retournée enseigner.
OK, wow. Elle est retournée travailler.
Oui. Puis moi, j'ai été... À partir de ma cinquième année, ma maîtresse d'école, c'était la sœur de ma mère. C'était ma tante. Donc, il ne se passait rien à l'école qui n'était pas connue à maison.
Ah, ça, c'est des fois, c'est pas... Ouais.
C'est ça. Puis, mon père, lui, a vécu... il est orphelin à l'âge de 5 ans. Il était d'une famille de 6 garçons. Puis, ils ont tous été éparpillés à l'âge de 5 ans. Mon père avait 5 ans, les autres étaient un petit peu plus vieux. C'était le plus jeune. Parce que ses parents étaient des alcooliques. Puis, ils ne pouvaient pas prendre soin de leur famille. Fait que là, en étant séparés comme ça dans chacune une ferme, ben là, ils ont été à l'ouvrage de la bonne heure, eux autres aussi. Puis mon père, lui, il a rencontré le plus vieux de ses frères, il avait 57 ans. Puis la première fois qu'on a été le voir, il était en Ontario, j'étais avec, c'est moi qui conduisais, comme d'habitude.
Fait que là, depuis toujours, on conduit. Ouais.
Fait que la première fois, il n'a pas été accepté. Lui, le grand frère, il considérait mon père comme les autres de ses frères, qui ont été un petit peu bohèmes, mm-hmm. pour pas dire voleurs, puis ce genre d'acabit-là.
Ah, ouais, OK.
Ça fait que il a fallu se reprendre une deuxième fois pour qu'il le reçoive, puis qu'il reconnaisse que mon père n'était pas comme les autres.
Bien, c'est sûr que... J'imagine, tu sais, à l'époque aussi, c'est une autre époque, puis c'est pas comme aujourd'hui où on pouvait se retrouver sur Facebook, puis...
Non, ben, faut dire aussi qu'il a été travaillé aux États-Unis, lui, une dizaine d'années, dans sa jeunesse.
Oui.
Fait que ça l'a écarté de la famille pas mal.
En effet, puis on remet en contexte aussi pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, faut comprendre que dans une partie de l'histoire du Québec, il y a beaucoup de Canadiens français qui sont allés aux États-Unis dans le désir de vouloir améliorer leurs conditions de vie, de travailler, d'avoir un meilleur salaire. Donc, il y a ça aussi...
C'est ça. Il allait travailler dans les usines dans ce temps-là, là, mm-hmm. parce que c'était la pratique courante dans ces années-là, avant la guerre mondiale. Là.
Tout à fait, oui. Ça, c'est une autre réalité, tout à fait.
Ouais.
Puis, j'avais envie... de parler avec vous du fait que vous étiez justement l'aîné d'une famille de 10, d'une fratrie de 10 enfants. Surtout, à l'époque, qu'est-ce que ça représentait, ça? C'était quoi la charge que ça a été pour vous d'être l'aîné de 10 enfants?
Ben, il fallait s'occuper des autres, ouais. Ça, c'est sûr. Puis, non, les travaux qu'il y avait dans ce temps-là, on chauffait au bois, puis fallait rentrer le bois, puis le corder, puis... Il fallait voir aux tâches de la famille, puis aider autant que possible. S'occuper des jeunes.
Mm-hmm.
Puis. Dans l'histoire, un petit peu plus tard, là, quand je sortais du technique, moi j'étais allé au technique, on va en reparler peut-être tantôt.
Oui, avec plaisir.
Mais je sortais du technique, là, maintenant j'arrivais à 10 heures le soir, de Rimouski, aller où on demeurait, à Saint-Just-Lac. Puis bon, les premières paroles de mon père, c'était « On commence à 7 heures demain matin. »
C'est ça, là. Il n'y avait pas le temps de prendre un petit drink, puis de relaxer, puis d'aller à la plage après. Non, non, c'est « T'arrives, puis tu vas travailler demain, puis t'es mieux d'être en forme. »
Lui, il n'y avait pas le temps de ça.
Bien, un homme de rigueur, votre père.
Oui.
De ce que je chante, un homme...
Il était sévère.
Oui, il était sévère.
Ouais.
Est-ce que des fois... Est-ce que c'est difficile, des fois, ou... Ben, vous étiez habitué à ça?
On ne pouvait pas se sauver.
Vu de même, en effet. Puis, parce que ça, tu sais, l'aîné de 10 enfants, tu sais, je vous invite, on pourrait en parler un petit peu, mais tu sais, vous, votre désir, c'était d'aller étudier, mais c'était pas le plan que votre père imaginait à la base.
Non, 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 il pensait pas à ça, lui. Ça, c'est plutôt les pensées de ma mère.
OK, non, allez-y, parlez-en, on en parle.
Non, non, ben, c'est que j'étais arrivé après mon primaire, là, à l'école, là, ben, là, on travaillait, puis il fallait que je prenne une décision, je m'inscrive à quelque part si je voulais continuer.
Mm-hmm.
Fait qu'on avait parlé un petit peu à mon père, il n'était pas question de ça. Lui, il était bien content que je travaille avec, puis il voulait que je continue.
Oui. Il voulait de l'aide à la maison.
Mais moi, j'avais un cousin qui s'était inscrit au Polytechnique, c'est-à-dire à l'Institut de technologie de la Rimouski.
Mm-hmm.
Puis ça m'avait... Comment je dirais bien ça? Ça m'avait donné des envies.
OK.
Fait que là, ben, j'ai commencé à m'en parler. Puis là, il y avait le curé qui était de cet avis-là, il y avait le maire de la paroisse qui était de cet avis-là, il y avait le patron de mon père qui était de cet avis-là, la maîtresse d'école, bien sûr, c'était la sœur de ma mère, bon, les autres, on savait de quoi qu'ils pensaient. Ouais. Puis celui qui s'était inscrit, mon cousin, là, c'était son garçon à elle, la maîtresse d'école. Donc là, on est parlé à mon père. Puis ça a jasé longtemps, puis ça a fallu que je revienne sur le sujet assez souvent. Pour finir par avoir un accord, la façon que j'ai obtenu son accord, c'était que c'était pas de l'argent que je voulais, c'était simplement la permission d'y aller.
Mm-hmm. Le principe.
Que je m'organiserais. Fait, dans ces conditions-là, si je te donne la permission, à la sortie, tu vas prendre 3 de tes frères à ta charge. C'était ça, le deal.
Comment vous viviez avec ça?
J'avais la permission, c'était correct.
OK, c'est ça. Le fait d'avoir les 3 à la charge, rendu là, tant qu'on avait le OK du paternel.
Ouais, je n'étais pas rendu là.
Mm-hmm.
C'est ça.
Mais c'est... Je trouve ça beau de voir qu'il y a autant de personnes qui croyaient en vous. Parce que je dis pas en tant que tel, je dis pas que votre père croyait pas en vous, là. Mais tu sais, c'est le contexte aussi,
À l'école, là, c'est ma sœur avait sauté par-dessus la 5e année. Là, en 6e année, on est tombés ensemble,
mm-hmm.
dans la même classe.
Oui.
Fait que, comment ça se produisait dans les classifications, à les fins de mois, là, il y avait ma sœur, mm-hmm. parce qu'elle avait tout le temps les livres. Moi, je travaillais.
Oui.
Il y avait moi. Puis il y avait un autre de nos confrères, là, ces 3-là, là, ça, c'était sacré, ça, c'était toujours en tête.
OK.
Les autres après.
Ça, il y avait quand même un rang dans la famille.
Tout le monde qui venait vérifier, comme l'inspecteur d'école qui venait, était conscient de ça.
Mm-hmm.
La maîtresse d'école était consciente de ça aussi.
Mm-hmm.
Et puis, au fait, fallait que je continue.
Ouais. Mais je trouve ça beau qu'il y ait autant de personnes justement qui ont poussé pour que vous puissiez avoir l'accord de votre père. Parce que, comme je disais, je pense pas du tout que c'est à cause qu'il ne croyait pas en vous, mais. Le contexte économique semblait tellement difficile.
Il avait besoin de moi.
Ben c'est ça, exactement. Tu sais, ça doit être difficile aussi de savoir que on sait qu'on a besoin de soi à la maison, mais en même temps, on a tellement envie de vivre d'autres choses. Ça doit pas être facile de vivre avec cette dualité-là aussi.
Lui, c'était pas à la maison qu'il avait besoin, c'était au travail.
Oui. D'ailleurs, je me permets, mais tu sais, vous m'en avez parlé aussi quand on s'est rencontrés avant, mais vous avez des bonnes mains aussi, là, tu sais, vous avez travaillé fort, là, ça se voit, là. J'aimerais ça que vous nous parliez aussi, justement, là, de votre départ de la maison, parce que là, vous avez le hockey de votre père, c'est officiel, vous pouvez aller aux études, puis, tu sais, je sais que vous avez commencé à travailler très tôt, mais ce départ-là de la maison... Comment ça s'est passé, le contexte, puis comment vous avez vécu ça?
Moi, je me suis en allé à Rimouski, puis là, j'ai dit, j'ai un petit peu d'argent de ramasser, mais il va falloir m'occuper pour avoir plus d'argent pour pouvoir tout payer mes études, parce que là, il n'y avait pas personne qui fournissait.
C'est ça.
Fait que je me suis trouvé en cours de route, pas la première année, là, mais les autres années après. J'étais pas mal responsable dans le collège. On me donnait des responsabilités. Je m'occupais du magasin des sports. Puis j'avais la permission d'aller travailler la nuit. Puis je m'étais engagé dans les fusillés de Saint-Laurent les fins de semaine. Faire la réserve. Puis c'est de même que j'ai ramassé mon argent.
Vous n'aviez pas le temps de niaiser, là.
Non.
Ben, parce que, tu sais, de ce que je vois, tu sais, on va pouvoir en parler un petit peu tantôt, mais, tu sais, encore aujourd'hui, vous êtes une personne très impliquée dans votre communauté, très impliquée dans votre milieu. Mais, tu sais, je constate que ça part de loin, là.
Oh, ça a toujours été.
Ça a toujours été là. Tu sais, le désir de s'impliquer, le désir d'être occupé, de... Est-ce que parfois vous sentiez de la pression?
Non, dans ce temps-là, oui, pour l'argent.
Mm-hmm.
J'avais toujours peur de ne pas en avoir assez. Mais ça a été juste que dans la dernière année, là, je me suis aperçu, bien, ma mère m'a fait sentir qu'il y avait des fins de mois qui étaient difficiles.
Mm-hmm.
Donc là, moi, je lui ai demandé comment est-ce qu'il lui manquait. Puis, j'étais en mesure de... Comment je dirais bien ça? J'étais en mesure de pallier à ça.
Mm-hmm.
Puis quand j'ai été reçu, diplômé, ben alors, il fallait faire une petite fête. Fait que je les ai invités. Puis on a dit, on va aller manger au restaurant. Dans ce temps-là, j'avais ma blonde.
Qui est devenue votre femme.
Qui est devenue ma femme. on est allé manger au restaurant. Puis là, je leur ai dit, inquiétez-vous pas, là, c'est moi qui paye.
C'est beau, ça. Fait que... Un petit clin d'œil pour leur dire de ne pas s'inquiéter.
Ouais.
C'est beau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi vous avez été diplômé à ce moment-là?
En mécanique automobile diesel.
OK.
Puis en dessin industriel. J'avais les deux.
Vous, ça, vous n'avez pas le temps de niaiser. Là. Tant qu'à aller aux études, on va se diplômer pour vrai. J'adore c'est ça.
Ben, plus que ça, là, dans ma dernière année, là, surtout en géométrie descriptive, le professeur rentrait dans la classe, puis moi, j'avais l'habitude de faire le contenu du cours avant de rentrer au cours.
Quand même!
Puis là, je le faisais.
Mm-hmm.
Fait que le professeur, lui, il savait ça. Fait qu'il rentrait, il allait pas au pupitre en avant, il venait me voir, puis il regardait mon travail. Bon, ben, tu as tout compris, tu vas aller l'expliquer en avant.
Comment vous trouviez ça?
Ben, c'est de la pratique.
Oui.
C'était le fun.
Oui.
Ben, ça donne un statut vis-à-vis des autres aussi.
Mm-hmm.
Fait que là, les autres, quand ils arrivaient aux examens, là, soit en mathématiques, soit n'importe quelle matière, là, les autres, s'il y avait des difficultés un peu, ben là, ils me demandaient pas de leur faire une session de formation. Mm. Je me pratiquais.
Ben, j'ai l'impression, en vous côtoyant un peu, j'ai l'impression que vous, ce qu'on peut considérer comme de la pression négative, ou c'est quelque chose qui vous challenge. Ça a l'air de vous motiver.
Oui.
Est-ce que je me trompe?
Oui.
Oui?
Oui. C'est la même chose dans le sport.
Oui, parce que vous êtes un sportif à la base aussi, ouais, vous.
Dans ce temps-là, là, on jouait dans nos clubs, on jouait au billard pas mal.
Mm-hmm.
On organisait des tournois. Puis j'expliquais à quelqu'un hier, OK, des jeunes qui commençaient. J'ai dit, toi, tu as de la pratique. Ouais, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas joué, puis tout ça. Puis, ben là, j'ai dit, c'est la pratique, ça se perd pas tout. Regarde, moi, quand j'étais jeune, je gagnais mes tournois de billard. Puis aujourd'hui, là, ils organisent des tournois de billard encore, puis j'ai gagné encore.
C'est tout à votre honneur, d'ailleurs,
c'est
vraiment.
Ça.
Donc, c'est le billard, vous êtes un bon joueur quand même.
Ben, je dirais pas que je suis un bon joueur, mais je m'applique.
Ah, c'est ça, OK. Vous êtes un bon gagnant, mais est-ce que vous êtes un bon perdant aussi?
Oui.
Ah, OK.
Non, oui, de temps en temps, c'est pour pas créer la monotonie.
Oui.
Je fais exprès des fois pour que je laisse gagner.
Je me permets, j'ai envie qu'on aille au niveau de votre entrée dans le monde du travail. Là, je dis, entrer dans le monde du travail, on s'entend, vous travaillez depuis que vous avez 7 ans. Fait que,
ouais.
Ça, c'est vous mais êtes ça, déjà c'est... dedans, mais en tant que diplômé. J'aimerais ça que vous nous en parliez. Bon. Comment ça s'est passé?
Premièrement, quand je suis sorti du technique, je suis allé à Montréal avec mon beau-frère, le frère de ma femme. Puis nous autres, on se cherchait un emploi. Moi, c'était comme mécanicien. Puis lui, il cherchait un emploi, tout simplement. Fait que ça n'avait pas l'air à fonctionner. On ne nous recevait pas réellement. Puis on s'y prenait peut-être mal. Je ne sais pas. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un téléphone de ma mère. L'Hydro-Québec me cherchait. Fait que là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, on va prendre un nouveau téléphone. Je les ai appelés. Ils ont dit, on voudrait te voir lundi matin à Bécomo. Pourquoi? Ben, ils disent, on a été aux techniques, là, puis on a choisi 5 mécaniciens, les 5 meilleurs, dire. Ah, ils vont être avec des jumps. OK, je vais y aller. On est allé, puis on est engagé à Monique 5, puis on a commencé à travailler là, comme mécanicien.
D'ailleurs, je voudrais qu'on salue les gens de la Côte-Nord de Bécomo, d'ailleurs. Donc là, on se remet dans le contexte. Là. On est en quelle année, à peu près?
J'avais 19 ans.
Oui.
On est en 59.
On est en 59. Vous avez 19 ans. Là, à ce moment-là, vous êtes à Montréal. Puis là, du jour au lendemain, prenez la route pour vous rendre à Bécomo. Quand même, là, c'est faut le faire. Hein?
Puis on s'en va travailler à Manic 5.
Puis on s'en va à Manic 5. Mmh. Comment ça s'est passé, votre expérience là-bas?
Ben, au début, les premiers 6 mois, c'était surtout, ben pas 6 mois, mais les premiers 2-3 mois, c'était pour de l'entretien général. C'est de la grosse machinerie, là, c'est des camions, puis 35 tonnes, puis des péloudeurs, puis des gradeurs, puis en tout cas, la grosse machinerie, comme de fait que je conduisais partout, là.
Oui.
Puis on réparait ça. Puis après ça, j'ai été affecté à faire le remontage des moteurs diesel puis les passer sur le bench test. Ça a duré jusqu'au fait.
OK.
Puis au fait, ben là, on m'a proposé une autre occupation. C'était de faire l'entretien sur le plan même, à l'extérieur du garage, pour éviter le moins de visites au garage possible. Tout ce qu'il pouvait se réparer sur place, je le faisais sur place. Puis ce qu'il ne faisait pas sur place, ben, on l'envoyait au garage.
On évite les gros coups, si on peut. Non. Là, comme
pour
on
dit. Ça, il dit, tu vas aller donner ton numéro de permis au bureau. Puis il dit, on va te prêter un pick-up là, pour te déplacer. Puis je dis, permis au bureau, c'est quoi ça? Fait que là, c'est quoi? T'es là chez toi, toi? J'ai 19 ans. Tu sais que tu fais ici?
C'est ça, parce qu'on se remet dans le contexte, vous n'avez pas de permis de conduire encore, là.
Mais non.
Vous conduisez depuis que vous avez comme 9 ans, mais vous n'avez pas de permis de conduire.
Non. Fait que j'avais 19 ans, puis je conduisais toutes sortes de choses. Plus que ça, c'est qu'on descendait à Bécomo toutes les fins de semaine, nous autres, on était des jeunesses.
Oui.
On allait prendre un coup un peu, puis pour remonter, ben moi, j'avais le contrôle là-dessus pas mal. C'est moi qui conduisais. J'étais le chauffeur désigné pour monter. Encore là, pas de licence, je chauffais les voitures des autres.
C'est ça, chauffeur responsable. Pas de permis, mais responsable.
C'est ça. Puis, au bout de 3 mois, à peu près, là, le premier pick-up est tombé. Il m'avait donné un vieux pick-up. Là. Il était plus bon. Fait qu'ils m'en ont donné un neuf après ça. Puis, toujours dans les mêmes conditions. La seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est « Fais-toi pas prendre. » Je ne m'étais pas fait prendre depuis le début.
Pourquoi se faire prendre... Excusez-moi. Pourquoi se faire prendre là, après ça?
J'allais faire attention pour ne pas faire d'accident.
Vous êtes resté combien de temps à Manic 5?
Alors, je suis resté juste un an parce que... Ce qui est arrivé, là, c'est que, bien sûr, là, j'avais commencé à travailler là. Puis là, j'avais... Dans ma tête, j'avais mes 3 frères à prendre soin.
Oui.
Fait que quand je suis revenu aux fêtes, ça allait très bien mon affaire parce que je m'étais commandé un char neuf. On prévoyait se marier à l'été. Puis j'avais toujours mes 3 frères, mais là je les ai demandé aux fêtes. Bon, comment ça va? Vous ne m'avez pas demandé beaucoup d'argent à date. Je dis, comment ça marche? Le plus vieux, lui, il voulait être professeur. Il a été à l'école normale pendant 6 mois. Puis finalement, il s'est trouvé un travail comme professeur. Il était satisfait, puis c'était beau. Les deux autres étaient sur le marché du travail, les autres aussi, mais sans avoir plus de qualifications. Mm-hmm. Bon, ben là, j'ai dit, vous n'avez plus besoin de moi? Non. Parfait.
Champ libre.
Ouais. Donc là, j'en ai parlé, j'en ai jasé avec ma blonde dans le temps. J'ai dit, tout le monde nous marie, là, mais... nous autres, on n'est pas tout à fait prêts, je pense. Je lui ai dit, tu dirais de ça qu'on tarderait ça 2 ans. Puis quand serait derrière mon char. Puis mes 3 frères, ils n'ont pas besoin de moi. Moi, je retournerais aux études. Puis t'en penses.
Puis qu'est-ce qu'elle en a pensé?
Elle jurait juste par moi. Fait qu'on a pris cette décision-là. Fait que... Rendu à l'été, ben j'ai appliqué dans un concours qu'ils organisaient d'un chantier maritime à Lévis. Mm-hmm. Puis ce patron-là, lui, avait fait, je sais pas trop, je me souviens plus du nombre. Je pense que c'est 20 concours comme ça. Puis il choisissait le premier à chaque concours. Il choisissait 20 dessinateurs comme ça. Puis là, j'ai commencé à travailler comme dessinateur, puis comme responsable de projet, puis... À un moment donné, ce patron-là, il en a choisi 5 pour aller faire le cours d'architecte naval en Angleterre. Wow!
Oui, wow!
Là, j'étais un des 5. Mais, c'était pas fini. Puis là, j'ai dit, moi, ça fait 2 ans que je retarde ma blonde là, pour se marier. Là. Les autres n'avaient pas le droit de se marier pour aller là. parce que c'était payé par la compagnie, puis ils ne voulaient pas qu'ils perdent leur temps, puis ils voulaient vous dire pourquoi on n'avait pas le droit de se marier, là, mm-hmm. tantôt. C'est que, moi, là, j'ai dit, ça fait 2 ans, j'ai dit qu'à matin, ça fait 5 ans qu'on sort ensemble, j'aimerais ça avoir la permission de me marier avant de partir. Puis je l'ai eu. J'étais le seul. Mm-hmm. Fait que là, il est parti, mais là, ce cours-là, c'était un cours payé par la compagnie, mais c'était très intense.
Oui.
On sautait par-dessus la première année, on ne la faisait pas. La deuxième année était de jour, la troisième de soir, puis la quatrième de jour, puis la cinquième de soir. Puis par là-dessus, on travaillait 3 jours et demi par semaine. C'était intense. Fait que, quand je suis arrivé là, moi, mon anglais n'était pas très, très formidable. J'ai réussi à me débrouiller pour me rendre à Newcastle upon Tyne, puis les cours commençaient dans une semaine à peu près. Le premier mois, je faisais juste écouter, je ne prenais pas de notes. Le deuxième mois, j'ai commencé à prendre des notes. Puis après ça, ben, les petits anglais copiaient sur moi.
Puis vous étiez à Liverpool, c'est bien ça?
Je suis arrivé à Liverpool, me fallait les cours, c'était à l'université de Newcastle upon Tyne.
OK, OK.
Puis on travaillait dans un chantier maritime qui était le Swan Hunter.
Oui. J'aimerais vous demander, écoutez, parce que on se remet aussi à une époque que... aller à l'international, quitter le Québec, du moins, c'était pas accessible à tout le monde. C'est peut-être moins aussi dans les mentalités de l'époque, si je me trompe pas. Je voulais savoir comment votre entourage a réagi sur le fait que vous partiez. Parce que, tu sais, aujourd'hui, mettons, la jeunesse, on part en sac à dos, on va en Asie, on se promène. C'est très encouragé dans la société, mais...
Dans ce temps-là, ça l'était pas.
Non, mais c'est ça, là. Comment les gens autour de vous ont trouvé ça?
Je pourrais tout simplement dire que mon père, il a commencé à reconnaître. À mon point de vue, à moi. Peut-être mm-hmm. qu'il le savait avant. Il a commencé à me reconnaître en me présentant à ses amis. Mm. Comme son fils.
Puis ça s'était jamais arrivé?
Non.
Comment il vous présentait?
J'étais un employé.
OK.
Tout simplement.
Vous avez l'impression qu'il a été impressionné par ce que vous avez fait?
J'imagine que oui. Parce que j'allais beaucoup, beaucoup plus loin que lui. Là. Lui, il avait arrêté à la 5e année, je pense.
Mm-hmm.
Il n'avait pas d'autres études que ce que ma mère lui avait enseigné par après.
Mm-hmm.
Mais il était bilingue.
Oui.
Puis moi, ben, j'ai appris un petit peu de ça. Mais là-bas, je suis tombé bilingue assez vite.
Mais ça doit être touchant. D'avoir justement cette sensation-là d'approbation de votre père.
Mm-hmm.
Parce que j'ai peut-être l'impression, celui-là, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je sais, est-ce que les hommes à l'époque étaient très démonstratifs de leurs émotions aussi?
Non.
C'est ça, OK, je suis pas trop dans le champ là-dessus. Là, mais...
Ouais. Enfin, moi, je me souviens un petit peu plus tard, là, j'avais mes enfants, puis on allait le visiter, puis lui était à sa retraite là, aussi. Là. Il avait passé 72 ans, je pense.
Mm-hmm.
73 ans. À mon mariage, il avait pris un coup avec mes deux frères. Puis il avait dépassé un petit peu leur capacité, comme on dit. Fait que le lendemain, ils n'ont pas très bien filé. Fait que mon père avait pris un engagement avec mes deux frères. Il dit, à partir de maintenant, on n'en prend plus. Lui, c'était c'est ça ou pas tout.
OK, c'est ça. C'est tout ou rien.
Tout ou rien. Il y avait beaucoup de volonté. Pas pire. Puis là, ben, il a tenu ça, lui, pendant une couple d'années. 2 ans, je pense. Mes frères, ça n'a pas tenu. Mais à un moment donné, je suis allé le visiter, puis il dit, moi, j'aimais bien prendre un petit rhum. Puis je lui en offrais, mais il dit, non, il dit, moi, j'en prends plus. Donc là, j'ai mis un whop à ça, moi, après 2 ans. Là, j'ai dit, tu nous as prouvé que tu l'avais la volonté. Tu étais capable d'arrêter quand tu voulais. Puis là, tu veux-tu, là, prendre un petit verre avec nous autres juste pour dire on fête ensemble.
Mm-hmm.
On est content, on est heureux, on se rencontre, on fête ensemble. Nous autres, on ne t'en finira pas rigueur. Puis là, il a pris un petit verre avec nous autres. J'ai brisé sa promesse.
Mais je pense que vous avez retenu beaucoup de lui quand même. Tu sais, cette rigueur-là, le sens du travail acharné. Ça vous a payé, tu sais, ça a été payant pour vous, là, ces valeurs-là.
Ben oui.
Ça n'a pas été une enfance douce, dans le sens que vous avez travaillé tôt, mais ça le fait l'homme travaillant, déterminé, que vous êtes devenu. Ça, c'est tout à votre honneur, vraiment. Puis, j'ai envie aussi de savoir, parce que là, tu sais, là, il y avait l'Angleterre, vous êtes parti là-bas, mais avant que je continue là-dessus, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que là aussi, vous avez retardé votre mariage avec votre épouse. Comment les gens voyaient ça?
Je me suis marié une semaine, juste une semaine avant de partir, là,
ouais.
En bateau.
Mm-hmm.
C'est un voyage de noces.
On fait tout en même temps.
Voyage de noces de 2 ans.
Ah, oh, c'est bon, ça!
Ça évitait à la famille proche de s'impliquer dans nos affaires.
Vous avez, comme on dit, vous aviez un peu la paix, mettons.
Exact. Ben, imagine une famille de 10 en arrière, là. Les autres étaient 11, ma femme.
Et...
Fait qu'il y en avait plusieurs qui auraient voulu s'impliquer dans nos affaires.
Ah, c'est clair. Là, vous aviez la paix.
On avait la paix de ce côté-là. Mais moi, je travaillais fort, c'était intense. Mm-hmm. Elle a suivi des cours.
Oui.
D'espagnol, puis d'anglais. Puis on est revenu, tombée enceinte aussi. Mm-hmm. On a perdu le premier bébé. Fait que...
Ça a été difficile.
Quand on est revenu avec mon diplôme, là, ben, est enceinte encore. Mais là, au moins, on prévoyait qu'il naîtrait au Québec.
Oui.
C'était une fille. Le premier enfant qu'on avait perdu, c'était une fille aussi. Elle était non vivable. Mais on avait peur un peu. C'est-tu nos gènes qui ont fait ça ou ben non, c'est juste un accident de la nature?
Ben, ça reste que ça peut être traumatisant là, comme expérience.
C'est inquiétant.
Ben oui, tout à fait.
Mais quand t'es venu au monde, on comptait les doigts et les orteils.
Je suis contente de savoir qu'elle avait tous ses doigts et tous ses orteils.
Aujourd'hui, c'est une sommité dans son domaine.
Oh, on la salue, d'ailleurs. Ouais. J'aimerais vous demander, c'est quoi votre plus beau souvenir de votre moment en Angleterre?
C'est la rapidité avec laquelle on se faisait des amis.
Mm-hmm.
On commençait à sortir quasiment les premières fins de semaine en groupe,
ouais.
Dans les pubs. Ça, c'était l'habitude là-bas.
Oui, tout à fait.
On allait dans les pubs les fins de semaine, on prenait un verre, sans abuser de rien, là, parce qu'on ne voulait pas dilapider notre argent pour rien.
Oui, puis on s'entend que c'est un... Tu sais, vous étiez... c'est un programme très exigeant aussi, là.
Oui, ça, on n'avait pas trop de temps à dépenser, là. On se gardait le samedi soir.
Fait que c'est les... En fait, c'est les amitiés que vous avez créées là-bas, c'est vos plus beaux souvenirs.
Oui, de toute façon, les 5 qu'on a été là-bas, on y a pas été ensemble.
Mm-hmm.
Les autres, là, qui étaient plus vieux que moi, les autres, ils ont commencé avant moi,
mm-hmm.
Ils sont venus, je pense qu'ils n'étaient pas encore partis, moi. C'est vrai, on était 5. Ils en voyaient 2 en même temps. Les autres, ils revenaient, puis moi, j'y allais. Mais ils sont pas tous revenus avec un tilon, là. Moi, j'avais le mien. Je m'en foutais des autres.
Ouais.
Mais il y en a 2 autres, les autres, qui l'ont eu aussi. Mais ils ont décidé de continuer en Angleterre, d'aller plus loin, de faire une maîtrise.
OK, OK.
Mais ça ne lui a pas trop... Ben, non, ça lui a servi.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, c'est leur histoire à eux.
Oui, en effet. S'ils veulent venir au balado un jour, ils viendront.
Ouais, c'est
nous la raconter.
Oui, mais c'est pas aussi plaisant que la mienne.
Je voulais savoir, qu'est-ce qui a motivé votre retour au Québec versus eux qui ont décidé de rester là-bas en Angleterre?
Ah ben, c'est parce que moi, j'avais hâte de travailler puis gagner ma vie. Là. Ma femme est enceinte, là. J'avais des responsabilités. Voilà.
Oui, la réalité est revenue quand même rapidement.
Ouais,
là.
Ouais, ouais. Fait que, quand je suis revenu, j'ai resté chez un ami pendant une couple de semaines. Je me suis trouvé un loyer dans un sous-sol. J'ai commencé petit de même, puis on a eu notre premier enfant là. Après ça, on a dit, faudrait bien s'acheter une maison. On s'est acheté une maison, on a eu notre deuxième enfant. Puis après ça, on a pris un... Non, on a pris un autre loyer à Sorel, on a eu notre troisième enfant là. Puis là, j'ai dit, 3 enfants là, on va s'acheter une maison.
Oh.
On s'est acheté une maison.
Ça commence à faire du monde, le 3 enfants.
Oui, c'est des chambres.
Un appartement, quand même.
C'est des chambres. Surtout qu'il y avait un gars au travers, ça fait que là, il faut le séparer des filles.
Oui, non, c'est comme pas la même dynamique, là, gars-filles, ça, on comprend. Ça. J'avais envie, parce que, tu sais, là, vous parlez tranquillement de la famille, tu sais, que vous avez fondée, dis-je. Mais je veux savoir, quand vous étiez en Angleterre, tu sais, vous avez mentionné que ça a été agréable d'avoir votre petite bulle de mariage, tu sais, d'un peu d'avoir la paix, de pouvoir vivre ça avec votre femme.
Ouais.
Mais est-ce que parfois, c'était difficile d'être loin d'eux? Parce qu'on se remet dans le contexte que il n'y a pas de FaceTime, il n'y a pas de tablette.
Ouais, ça,
comment on maintient le contact à l'époque?
On n'a pas de contact.
OK, bon. Il n'a juste pas.
Simplement.
Tout ou rien, il n'a pas.
Ce qui m'est arrivé là-bas aussi, là, c'est dans l'été, on prévoyait faire un voyage sur le continent.
Mm-hmm.
Puis c'était cédulé qu'à 11h le soir, on prenait le train puis on s'en allait à Londres pour embarquer avec les autres. C'est un voyage organisé.
Mm-hmm.
Puis dans l'après-midi, j'ai dit, je vais prendre la journée, l'après-midi de congé, je vais aller au cinéma à la place, pour relaxer un peu.
Mm-hmm.
Puis j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai pas pu écouter le deuxième film, me s'en aller à la maison. Je marchais presque à quatre pattes. Fait que là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh, on va aller voir le médecin, parce que là j'ai dit, je peux pas partir en voyage demain. Fait que j'allais voir le médecin en haut de la rue, c'était pas loin.
Mm-hmm.
T'allais à pied. Je suis arrivé chez le médecin, puis après qu'il a eu fini de m'examiner un peu, là, j'ai demandé, j'ai dit, peux-tu m'arranger ça? On prend le train à 11h le soir. Il dit, va-t'en organiser un voyage. Il avait appelé l'ambulance.
Ah, ça, c'est pas. Ouais, c'est moins de l'amour, comme ça, on dit. Hein?
C'est moins le fun.
Ouais.
Fait que, s'en allait à l'hôpital, puis. Il examine, on était en instant après minuit, je pense. Fait que, à 2h du matin, il décide de m'opérer. Fait que je dis, donc ben urgent, ça là. Fait que le lendemain matin, ils sont venus me voir. On dit, si on avait envie d'attendre au matin, mais on n'aurait pas eu besoin de t'opérer si on avait attendu au matin. C'était urgent.
Oh, OK, dans ce sens-là, là.
Ouais.
Fait
que ça a bien passé, ça. Mais mm-hmm. 3 jours après, j'étais revenu à la maison.
Mm-hmm.
Là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, là, j'ai dit, les choses qui m'inquiètent, ils ont coupé proche pas mal. J'ai dit, on essaye-tu si ça marche encore?
Finalement, ben ça
marchait.
Ça a tout bien été. On est content pour ça, vraiment.
Ça.
Donc là, je reviens. Là, vous êtes de retour au Québec.
Mm.
Puis là, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Là, vous avez vos enfants, vous regardez pour une maison. Professionnellement, comment ça se passe? Parce que là, vous êtes diplômé. Ah, ben,
j'avais 3 chantiers qui voulaient m'avoir.
Mm.
Il y avait Baker Armstrong à Montréal, qui eux, c'était un contrat. Il y avait Davy Shipbuilding ici à Lévis, qui eux, c'était un contrat aussi.
Okay.
Puis il y avait Marine Industrie à Sorel, qui eux, c'était pas un contrat, mais c'était un emploi à plein temps.
Okay.
Mais ça payait moins cher.
Mm-hmm.
J'ai choisi le contrat à plein temps.
Okay.
C'est pour ça que je me suis installé à Sorel.
Mm.
J'étais là 21 ans de temps.
Et quand même, hein?
Mm.
Quand même.
Puis ça a bien été. Mais là, malgré que un petit bout de temps, là, il y avait rumeur de grève. Moi, j'étais syndiqué.
Mm-hmm.
Donc, j'avais dit à la compagnie, je savais que je ne resterais pas syndiqué très longtemps. Je lui avais dit à la compagnie, je dépêchez-vous. J'ai dit, moi, là, j'ai dit, je ne suis pas un gars qui restait à rien faire en grève.
J'ai dit,
si vous voulez me garder, là, j'ai dit, vous me passez d'un code tout de suite avant que ça tombe en grève.
Exactement.
Ils n'ont pas eu le temps.
C'est ça, vous êtes là pour travailler. Vous êtes...
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu le temps.
Non.
Fait que c'est tombé à grève. Dans ces conditions-là, moi, j'ai été à la sidérurgie à contre-cœur. C'était. Aujourd'hui, c'est ArcelorMittal, mais dans ce temps-là, c'était Sidbeck Dosco.
Mm-hmm.
Pour avoir un emploi, puis j'ai eu un emploi tout de suite. J'ai travaillé là 9 ans et demi de temps.
Mm-hmm.
À céduler les employés d'entretien. J'avais 26 métiers différents dans 9 plans différents. Puis eux, les employés d'entretien, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis il fallait séduler ça en respectant la convention collective.
Oh! Fait que ça reste que ça, là, c'est quand même différent de ce à quoi vous avez étudié à la base,
c'est,
là.
C'est, contrairement, là, c'était en dehors de mes cordes, comme on dit.
Ouais. Comment vous avez trouvé ça de sortir des sentiers battus, si je peux dire ça de même, de ce que vous connaissiez?
J'ai développé mon système avec des tableaux magnétiques.
Ouais.
Puis pendant les 9 ans et demi, il n'y a pas eu jamais un grief. Donc, je contrôlais mon affaire.
C'est comme vous étiez en contrôle.
Yes.
Mais ça, ma question, c'était comment vous avez trouvé ça de sortir de ce que vous connaissiez, t'sais, de faire quelque chose de différent quand même?
Moi, en autant, je travaillais.
OK.
C'était ça.
Mm.
J'avais le revenu, puis je pouvais vaquer aux besoins de ma famille.
Parce que là, c'est différent. Là. C'est que là, vous gérez des humains.
Oui.
Pas la même chose que des machines, là.
Non.
Comment vous avez trouvé cette expérience-là?
Ah, faut faire attention.
Oui?
Bon, oui. C'est des appels téléphoniques, c'est des explications aussi. Il y en a qui tombaient malades, il fallait les remplacer, il fallait pousser certains à agir un peu plus vite ou à travailler plus fort.
C'est ça, c'est que là, on se rend compte que la machine, on lui dit quoi faire, elle le fait. Quand c'est des humains, il y a un autre volet.
Il faut les convaincre.
Oui, en effet, en effet. Mais j'ai l'impression que vous aviez aussi une belle personnalité pour ça, tu sais.
Aujourd'hui, il y a des gens qui me font reconnaître ces aptitudes-là.
Mm-hmm.
Dans le temps, j'étais pas au courant.
Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Mm. Que les autres voyaient cette facette-là de vous, alors que vous la perceviez pas.
Oui, bien ça, c'est parce que ça prend des bons amis pour te faire voir des choses aussi. Fait que ces bons amis-là, je les ai aujourd'hui.
C'est important pour vous, ça, l'amitié. Hein?
Mm.
Je me permets d'entrer là-dessus parce que vous ouvrez la porte, mais pour vous, ça prend quoi la place de l'amitié dans votre vie?
Bon, moi, il faut que ça soit faut que tout le monde s'entende bien autour de moi.
Mm-hmm.
Pas des situations de conflit, moi, là, je m'éloigne de ça.
Oui. On n'a pas besoin de ça dans la vie non plus. Hein?
Non.
Puis pour vous, c'est quoi les qualités ou les valeurs essentielles pour un ami?
D'être reconnaissant et proche.
Mm.
Puis d'échanger.
Oui.
Changer les services, les opinions.
Ben, c'est une richesse dans la vie de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, c'est pas rien, là.
Ah, ben, mes enfants me le répètent, tu vois.
Oui.
Ah, ouais. Mm. Ben, toi, t'es chanceux, papa. T'as des amis.
Oui. Mais je dis vraiment ça parce que c'est vrai, c'est que savoir qu'on peut compter sur des gens quand on en a besoin. C'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose que tout le monde a, puis c'est une richesse, puis je pense qu'il faut aussi les conserver, tu sais, faut les entretenir, ces amitiés-là.
Mm-hmm.
Ouais. Mais ça, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je trouve ça beau de vous voir parler de vos amitiés, puis à quel point c'est important pour vous.
Ah, c'est important, certain.
Ouais, c'est un peu comme la famille. C'est la famille qu'on choisit, en fait.
Ouais. Ben, j'ai été chanceux, moi, parce que j'ai pas eu d'enfants malades.
Mm.
J'ai pas eu d'enfants qui ont éprouvé beaucoup, beaucoup de difficultés, à l'exception d'une certaine période pour mon gars.
Mm-hmm. J'aimerais savoir, au niveau professionnel, pour vous, c'est quoi qu'est-ce que ça a pris, le travail, comme place dans votre vie?
Ben, c'est un gros pain. C'est la satisfaction de travailler dans ce qu'on... Dans quoi on excelle.
Ouais.
Moi, j'étais fier de mes enfants et de mes petits-enfants, justement, parce qu'ils suivent ils suivent l'exemple.
Ouais.
Ils réussissent bien aussi.
Ouais.
Fait que... Non, moi, après le Sidbeck de Sco, c'était un autre de mes chums. C'est lui, il était chef estimateur à Marine Industrie, Sorel.
Mm-hmm.
Puis, il a décidé de laisser ça pour s'en aller agent immobilier.
Mm-hmm.
Fait qu'il m'en a parlé.
Mm-hmm.
Puis moi, j'étais à sidérurgie encore avec mes hommes d'entretien.
Oui.
Fait que là, il dit... on a fait le même cours. Fait que, il dit, ça t'intéresserait-tu de prendre ma place? Ah ben, je comprends donc. Il dit, je vais te préparer le terrain.
Mm-hmm.
Parfait.
Fait que là, vous vous réorientez, là.
Le lendemain matin, je rentrais là, moi, comme chef estimateur.
Hey.
J'ai été là 50 ans. Puis il fallait que je développe le système informatique pour faire l'estimation.
Vous avez touché à plein de choses. C'est impressionnant quand même.
Ouais.
Vraiment. C'est vraiment impressionnant, tu sais, à quel point vous êtes polyvalent, puis que vous adaptez.
Puis dans le temps, j'étais là, à Marine Industrie, ben moi, les semaines de vacances, des fois, j'étais assez occupé aussi. Je sortais avec les élus du municipaux,
mm-hmm.
puis on faisait des voyages de pêche. Mm-hmm. La pêche dans le nord,
oui.
En avion, pour 7-4 jours à l'étranger. Puis une fois, je suis revenu d'un voyage de pêche comme ça,
mm-hmm.
pour me présenter le mardi matin à mon bureau, à Marine Industrie.
Mm-hmm.
Puis je ne savais pas, mais les autres, ils avaient acheté des Vichy Building en fin de semaine.
Des quoi, pardon?
Ils avaient acheté le chantier des Vichy Building, ici à Lévis.
OK, oui.
Marine Industrie déménagée.
OK.
Et moi, je ne savais pas. Mm. Je me suis présenté à mon bureau. Là, je vois mon patron qui est assis à ma... non, sur ma chaise. Bon, je viens de prendre ma job. Il dit, non. Ben, c'est quoi qui se fait là? C'est quoi qui se passe? Ben, il dit, on a besoin de toi à Lévis. C'est quoi qui se passe à Lévis? Ben, il dit, on a acheté à Lévis, puis on s'en va là. Ah! Quand est-ce? Demain matin. T'es aussi vite que ça.
Ben, c'est ça, vous, on dirait que ça...
Ça l'arrête pas.
C'est toujours ça, puis... Je voulais savoir, tu sais, en ce qui peut-être conclut un peu la partie plus professionnelle de mes questions, je voulais savoir, ça a été quoi pour vous votre plus gros défi, puis professionnellement parlant, puis, tu sais, oui, au niveau du travail, mais est-ce que c'était la conciliation travail-famille? Est-ce que c'était, ça a été des mandats ou des travaux en particulier? Vous, ça a
c'est
été
plus,
quoi?
C'est plus les mandats, parce que quand je suis arrivé ici à Lévis, on m'avait donné le travail d'être gérant de projet.
Mm-hmm.
Là, je gérais des projets spécifiques. Mm-hmm. C'est surtout des niveaux de réparation, parce qu'on travaillait sur les frégates dans ce temps-là.
Ouais.
Puis, j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois. Puis là, à un moment donné, ils ont eu besoin dans un autre département
mm-hmm.
pour préparer les factures au gouvernement.
Ouais.
Ça faisait 3 mois qu'ils essayaient de se faire payer par le gouvernement. 3 mois ou 6 mois, je ne me souviens pas, là. Puis ils n'avaient jamais réussi à recevoir un paiement.
OK, quand
fait que là, ça n'allait pas bien.
Non.
Fait que là, mon nouveau boss, lui, il dit, moi, j'en connais un. C'est-à-dire, c'était mon boss actuel. Il m'a dit, j'en connais un qui serait capable de faire ce job-là.
Mm-hmm.
Il dit, on va le mettre là. Correct. Fait qu'ils m'ont nommé, puis j'étais là. Je les ai demandé 3 mois pour m'organiser.
Oui.
Puis encore là, avec de l'informatique.
Oui.
Puis au bout du 3 mois, je suis allé voir mon patron. J'ai dit, celle qui s'occupait de ça avant, elle travaillait pour moi.
Mm-hmm.
Puis elle me donnait toutes sortes de conseils, puis de mauvais conseils, on va dire. Fait que j'ai dit à mon patron, j'ai dit, trouvez-lui d'autres choses, moi, je n'ai pas besoin. Fait qu'ils ont trouvé d'autres choses.
Mm-hmm.
Puis là, moi, j'ai continué à travailler, puis une semaine après, j'étais arrivé avec une facture prête de 15 millions.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, tu vas m'accompagner, on va aller rencontrer le gouvernement, puis on va leur présenter la facture avec nos critères ou nos exigences.
OK.
Fait qu'on est allé rencontrer le gouvernement. Fait quand même une facture de 15 millions.
Ouais, c'est ça, là, faut comme... c'est sérieux, là, quand même.
Je leur ai dit, là, je dis, à partir de maintenant, si vous avez mal classé un document, ou si vous l'avez perdu, ou si vous trouvez qu'il n'a pas été signé à bonne place, c'est pas n'importe quoi. Vous me le dites, puis dans les 2 secondes, ou les 2 minutes qui vont suivre, vous allez l'avoir en main.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a plus aucune raison de refuser une facture à partir de maintenant. Voici celle de 15 millions.
Hey.
Ils ont payé.
Ouais.
Puis après ça, j'ai présenté une facture à toutes les 2 semaines à peu près,
mm-hmm.
qui frisait les millions encore. Là,
ouais.
Là. Puis jamais une facture a été refusée.
Ce qui me fascine avec vous, ce qui me fascine avec vous, M. Marcel, c'est que je vous sens vraiment comme une personne confiante.
Je suis rigoureux.
Oui, c'est ça, vous êtes. C'est tout à votre honneur, vraiment.
Rigoureux dans le travail, rigoureux dans la façon de le préparer.
Mm-hmm.
Les choses sont à leur place, c'est à l'ordre, tout le temps.
Tout le temps. Ben, c'est tout à votre honneur, vraiment.
Mm. Puis le président de la compagnie, il m'avait invité aux fêtes,
mm-hmm.
à son bureau, suite à ce succès du 15 millions.
Oui.
Il dit, tu nous as sauvé 15 millions cette année, toi. Je lui ai dit, ça se paye, ça. Mais ils n'ont pas payé.
Donc, finalement, ben oui, vous avez essayé, ça se fait quand même. Je voulais vous demander, parce que là, on a parlé un petit peu, on a fait une petite parenthèse sur votre famille tantôt, mais je voulais qu'on en revienne un peu là-dessus. Je voulais savoir pour vous, M. Marcel, être papa, ça veut dire quoi? Je vous pose des grandes questions aujourd'hui.
Ouais,
hein?
Ouais, ouais. comment aborder ça? C'est une responsabilité.
Oui.
Mais c'est aussi du plaisir quand ça réussit.
Oui.
Moi, mes enfants sont intelligents. Mm. Puis ils ont tout fait leur chemin. Ils ont réussi, accepté. Mon gars, lui, il n'a pas choisi un métier qui le favorisait beaucoup. C'est pas trop payé. Donc, mais il est chanceux. Il avait son père pour l'aider.
Mm.
Il l'a toujours, d'ailleurs.
Mm.
Fait que Mais les autres, au fait, juste vous compter. Au fait, je suis allé voir ma fille, puis la plus vieille était là aussi, puis j'ai transporté mon garçon avec moi, avec ses enfants, puis on était toute la famille là. Là. Mm-hmm. 6 petits-enfants, puis 3 enfants, leur mari, leur conjoint. Puis il y avait même la sœur de ma femme qui était là. Fait que, juste avant le repas de Noël, là, au soir, j'allais voir les petits-enfants qui étaient tous à la même place, à la même table. Puis là, je les ai félicités pour le cheminement qu'ils avaient fait. Mm-hmm. Puis de voir à continuer que ça faisait plaisir au grand-père. Ça, je traversais dans l'autre salle, puis j'ai fait la même chose avec les enfants puis les conjoints. Ça, c'était l'apport du grand-père.
Je trouve ça beau que vous ayez eu l'opportunité puis que vous ayez pris le temps de leur transmettre ces émotions-là que vous aviez envers eux. Mm. C'est précieux, ça. Vraiment. C'est des beaux souvenirs de famille.
Mais il y a des choses que je me souviens, des petits-enfants. Mm-hmm. Ils appelaient leur grand-mère « grand-maman Doudou ».
Oh.
Elle est douce.
Grand-maman Doudou, ouais. C'est donc beau.
Enfin, puis moi, ils m'en ont trouvé un aussi. Il m'appelait grand-papa Dodu.
Ah bon, c'est sûr que, bon, Doudou, OK, ouais. C'est quand même très cute, il faut se le dire.
Bien sûr.
D'ailleurs, je me permets, parlant de grand-maman Doudou, j'aimerais ça que vous me parliez de votre épouse, parce que je sais à quel point ça a été une personne très spéciale dans votre vie. Puis, tu sais, je me permets, tu sais, je sais qu'elle a été malade puis que vous avez vécu des moments quand même très, très difficiles à travers sa maladie, mais j'aimerais ça que vous me parliez de votre plus beau souvenir avec elle puis aussi de votre rencontre.
Ouf!
Ouais, je...
La rencontre. On était du jeunesse encore, là. J'avais à peu près... J'avais 14 ans.
Mm-hmm.
On sortait d'un bar. Moi, je sortais avec des gens plus vieux que moi, des jeunesses plus vieilles que moi.
Ah, c'est ça!
Puis on allait dans les bars, dans ce temps-là. Puis c'était 21 ans pour être admis dans un bar.
OK, ouais, à l'époque, c'est 21.
Okay. J'en avais 14.
Oh, OK!
on était habitués d'aller dans ces bars-là. Puis, à un moment donné, la loi est arrivée ils ont baissé ça à 18 ans. Donc là, la serveuse qui nous servait d'habitude, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous avez de la tête correcte. Alors, j'ai dit non. Et moi, j'avais la même corpulence que les autres. Là.
C'est mais, ça. Avec vos bonnes mains.
moi, j'en ai juste 14. Puis c'est suite à ça. Alors, on continuait à sortir demain. On allait aux théâtres souvent. Mais ce soir-là, on se demandait quoi faire. On était quatre jeunesses ensemble. On est allé à Saint-Benoît-de-Packington, là, un endroit où je suis allé seulement qu'une fois, cette fois-là. Puis, il y avait une fille qui était assise sur le bord d'un comptoir ou d'un réfrigérateur, je ne me souviens pas. Puis là, lui, il est arrivé le premier en avant d'elle, puis il a demandé pour danser. Donc, elle a refusé.
Oui.
Donc, moi, je suis arrivé tout de suite en arrière. Moi, je suis arrivé tout de suite en arrière.
OK.
Puis, j'ai demandé pour danser, puis là, elle a accepté. Mais aujourd'hui, je peux dire, je sais pourquoi qu'elle a accepté. C'est parce qu'elle, elle m'avait déjà spoté à l'âge de 12 ans. Oh! Je marchais au catchis.
OK.
Puis ça faisait longtemps qu'elle avait une idée sur moi. On attendait l'occasion. Ça fait que ça a parti là.
Oh, c'est bien beau. Mm. Bien beau. J'aime ça. Puis, votre plus beau souvenir d'elle?
Elle était douce.
Grand-maman Doudou.
Ben oui, ça portait son nom. Puis, jamais qu'on a senti quoi que ce soit là, qui nous divisait, qui nous séparait. Quand elle est tombée malade en 2010, elle est opérée deux fois. Elle a fait des bonnes séances d'hôpitaux. Moi, j'allais toujours la voir, j'allais toujours la supporter, ainsi de suite. Puis toutes les décisions qu'on avait à prendre, on les prenait ensemble. Mm. Mais la principale occasion, là, ça a été... Elle avait fait 2 mois et demi là, aux soins palliatifs l'an dernier. Là, parce que les médecins lui disaient qu'elle n'avait pas 1 à 2 semaines.
Mm-hmm.
Mais elle a resté 2 mois et demi aux soins palliatifs. Puis là, ils ont dit, on ne peut pas garder quelqu'un aussi longtemps que ça aux soins palliatifs. Mmh. Fait que, on va vous donner le choix d'aller soit en CHSLD ou soit au littoral. Littoral, c'est une place pour mourir.
Ouais.
Elle ne les a pas laissés finir. Elle lui a dit, moi, je m'en retourne à la maison avec mon mari.
Mmh.
Clic. Puis elle est restée 11 mois avec moi.
Ça vous a marqué, ça?
Oui.
Mais en tout cas, je pense que...
Elle était très reconnaissante. Là. C'était un choix qu'elle a fait, mais c'était très reconnaissante. Il y a une fois, je me souviens, là, je ne passerai pas dans les détails. Là. On était dans la salle de bain, puis je lui ai aidé à se revêtir. Puis... Elle a passé la main ici, là, trois fois. De main.
Mm-hmm.
Ça voulait tout dire pour moi.
Oui. Mm. Une grande femme courageuse, votre femme.
Aïe, tout le monde la voyait comme une... miraculé.
Oui.
Elle était très, très, très... Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait aller au restaurant toutes les semaines.
Oui.
On y était tous. Malade, pas malade, on allait au restaurant toutes les semaines.
Je pense que c'est un beau cadeau que vous lui avez offert à travers tout ça.
J'imagine que oui. En tout cas, ça n'est jamais plein.
Oui. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de la manière que vous me la décrivez, c'est que c'est une grande femme. Puis aussi très, je me permets l'expression, mais très willing. Là, on s'entend que, tu sais, je repense à votre histoire de vie, de vous suivre en Angleterre à l'époque, de vivre tout ce que vous avez vécu avec elle. Une femme hors du commun, j'imagine.
Ah oui.
Ouais.
Une femme qui a fait que notre couple a fonctionné.
En tout cas, je pense que ça, c'est... Tu sais, on parlait des amitiés tantôt, mais ça, je pense que c'est une très grande richesse aussi dans votre vie.
Oui.
Je me permets, on tire bientôt à la fin de notre rencontre ensemble, mais j'aurais deux dernières questions à vous poser. Puis, la première question, en fait, ça vient... c'est la question meilleure, en fait, qui est un jeu sur la croissance personnelle puis le développement. Puis, ils font des jeux de conversation. Puis c'est meilleur, nous font le bonheur de s'associer au balado, puis comme partenaire. Puis la question que j'avais envie de vous poser, c'était de savoir, vous, M. Marcel, qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous repensez à votre vie? J'ai des grandes questions, moi, quand même. Hein?
Ouais.
Puis il peut y avoir plusieurs réponses. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire juste une réponse.
C'est ma capacité, lui. De me rallier des amis, puis qu'on puisse fonctionner encore. D'avoir la capacité physique,
mm-hmm.
puis la capacité mentale de cultiver ça,
mm.
cette amitié-là.
C'est bien beau, ça.
Ben.
Ben, moi, j'aime ça comme réponse.
C'est ça.
Ouais. Mais ça se voit que vous êtes une personne qui aime les gens. Vous aimez vous entourer, puis... Vous avez des belles qualités aussi.
Pour répondre à ça, j'ai toujours fait du bénévolat depuis 1966. J'ai appartenu à des clubs qui ne font que ça, les Chevaliers de Colomb, tous les degrés, toutes les fonctions.
Mm-hmm.
Puis aujourd'hui, ben, je suis bénévole pour faire du taxi pour les autres qui n'ont plus de leur permis, qui n'ont plus d'automobile. Je les accompagne partout.
Oui.
C'est n'importe quel besoin, là.
Mm-hmm.
Que je les aide à marcher, que je les supporte, que je vais chercher les déambulateurs, je suis toujours à leur service.
Mmh. Vous avez une grande empathie.
Mmh.
Puis ça se voit. Puis c'est le fun de vous voir aussi impliqué, tu sais, autant dans votre communauté.
Je me fais demander souvent comment ça, à ton âge, t'as encore toutes ces capacités-là. Ben, j'ai dit, moi, je suis resté actif.
Ouais.
Je suis resté occupé.
Mmh. Ben écoutez, c'est tout à votre honneur, vraiment. Puis ça se voit, tu sais, ça se voit aussi que vous aimez ça. Je vous ai vu dans différents contextes. C'est le beau de vous voir, vous impliquer, les causes que vous les choisissez parce que ça vous tient à cœur. Puis.
Faut que ça rende service.
Oui. Puis, en tout cas, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Puis votre sens aussi du devoir, vraiment. Vous m'inspirez beaucoup, sachez-le.
Bon.
Puis, je me permets une dernière question, M. Marcel. C'est une question que je pose à tous mes invités et qui est la suivante. C'est que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous diriez au Marcel de 20 ans s'il était devant vous? Que ce soit un conseil, une leçon de vie Au niveau de l'expérience, qu'est-ce que vous lui diriez?
La même chose que je dis à mes petits-enfants.
Oh, puis c'est quoi?
Là, je sais pas, vous êtes dans une bonne voie.
Mm-hmm.
Améliorez ça.
Oui.
Puis allez au bout de vos désirs, au bout de vos rêves.
C'est vraiment beau, ça.
Puis là, je suis en train de montrer à un de mes petits-fils là, comment faire des économies, puis comment se serrer de l'argent à partir de maintenant. Il y a 14 ans.
Ah ça, on commence. Ben, en même temps, c'est bien aussi de commencer jeune aussi. Ouais. Ouais, c'est. En tout cas, je pense que ça va lui servir. Peut-être qu'à 14 ans, s'il y a l'ouverture et la reconnaissance, tant mieux. Parce que moi, à 14 ans, j'aurais trouvé ça challengeant de me faire parler de mes finances, mais
c'est tellement. J'ai fait son rapport mensuel là, tous les mois. Pareil, comme si c'était la caisse qui lui remettait son relevé. Là.
Ouais.
Mais je compare ses payes, puis je mets de l'argent de côté. Puis,
Ben ça, en fait, c'est vraiment un beau cadeau que vous lui faites.
Ouais.
Vraiment. Moi, on dirait que j'aurais trouvé ça spécial de me faire parler de mes finances à 14 ans, mais en même temps, je pense que c'est important aussi. Là.
Moi, j'ai commencé à 31 ans à faire des économies.
Oui.
C'est-à-dire que j'en ai tout fait toute ma vie, là, mais ouais. Je les utilisais de suite.
Mais ça, en tout cas, je trouve ça bien que vous faites l'éducation financière à vos enfants. Puis écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Puis merci pour le conseil pour Marcel, 20 ans, parce que j'ai l'impression que ça peut faire écho à beaucoup de monde, ce conseil-là, mais aussi ce que vous avez vécu dans votre vie. C'est très inspirant.
Puis, merci bien.
En tout cas, moi, ça résonne en moi. Fait que merci beaucoup, beaucoup. Puis je me permets aussi, pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, ben merci d'avoir été à l'écoute de notre balado. Je vous souhaite une très belle journée, puis vraiment, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire qu'on a tous passé un merveilleux moment avec vous, M. Marcel.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.